Tristan peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous, je reçois Raymond Huard, professeur honoraire d'histoire contemporaine à l'université de Paul Valéry à Montpellier III, pour discuter de l'implication protestante dans le combat républicain et dans la laïcité en France. Pourquoi intégrer cette question dans « un protestant peut en cacher un autre » ? Il nous a semblé que ce pourrait être intéressant de démythifier l'histoire du protestantisme. Ce courant de pensée ou de croyance, comme vous le voulez, a tendance à magnifier son histoire et parfois on peut se demander si ça n'aboutit pas à cacher le protestantisme. Bonjour Raymond Huard.
Bonjour.
Vous avez fait votre thèse sur le Parti républicain dans le Gard de 1848 à 1881 et dans ce département à forte présence protestante, vous avez été amené à étudier son positionnement politique. Alors première question, est-ce que ces protestants du 19e sont très différents de ceux d'aujourd'hui au niveau du positionnement politique ? En gros, est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire ?
Naturellement, il faut tenir compte du fait que le monde a énormément changé depuis l'époque dont nous allons parler et que la situation des protestants français aujourd'hui est extrêmement différente à tous égards de celle de 1815 ou même 1848. Ce que nous pouvons éventuellement retrouver, ce sont des réactions ou des comportements qui tiennent à l'époque, mais qui peuvent se retrouver dans un autre contexte. Il ne faut pas oublier aussi que pendant la période dont nous allons parler, les protestants ont leur propre histoire intérieure liée aux tendances entre lesquelles ils se partagent, mais cela, j'en parlerai très peu, et je prends plutôt les protestants comme un ensemble face aux événements politiques de l'époque.
Alors, vous m'avez dit vouloir ne parler que des protestants gardois. Pourquoi ?
C'est que les conditions sont très différentes selon l'importance de la population protestante dans les différentes régions de France. Et moi, je me limiterai à la situation du Gard parce que, quand même, c'est elle que je connais le mieux. Et dans le Gard et à Nîmes en particulier, où la population protestante forme une forte minorité suffisamment importante pour avoir une existence politique. C'est la plus importante communauté protestante de France, mais la majorité de la population n'en est pas moins catholique. Au total, 120 000 protestants vers 1848, 280 000 catholiques.
Il y a l'Alsace aussi qui est protestante.
Effectivement, le protestantisme alsacien, mais le protestantisme alsacien est en partie différent de celui du Midi. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 1871, l'Alsace fait partie de l'Empire allemand, que les protestants alsaciens ont été très éprouvés par la guerre de 1870. Et aussi, il y a effectivement en Alsace une bourgeoisie protestante engagée cependant dès l'époque qui nous intéresse, dès la période qui nous intéresse, dans le combat politique républicain. Et elle mériterait d'ailleurs une étude à part.
Et comment vivaient ces catholiques et ces protestants, entre eux, ça se passait bien et de façon citoyenne, comment ça se passait ?
Eh bien, c'est le rapport, en fait, entre les deux forces qui est décisif. Naturellement, le rapport numérique entre les deux confessions est différent selon les localités. Mais retenons simplement le fait que dans les villes les plus importantes du département, c'est-à-dire Alès, Nîmes, Bagnoles, Le Vigan, Uzès, les catholiques sont nettement majoritaires. Alors bien sûr, il y a aussi des terres protestantes, la Vonage ou la Gardeninque, hein, la Gardeninque entre Nîmes et Alès, alors, où les protestants sont majoritaires. Dans la vie quotidienne, eh bien, ces deux communautés en fait vivent à côté l'une de l'autre, mais très séparées. Chacun a ses commerçants, sa clientèle, etc.
Le docteur,
son docteur, et ainsi de suite. Hein. On ne va pas voir, en principe, un artisan ou un médecin qui n'est pas de votre confession. Bien, anime d'autre part. À l'époque qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, la présence d'une population ouvrières nombreuses dans l'industrie textile et aussi d'une population rurale de travailleurs de terre, majoritairement catholiques et encadrées par des prêtres ou des leaders nobles ou roturiers d'ailleurs, peut être considérée par les protestants comme un danger. Et le risque que des affrontements violents se produisent, et il s'en est produit, jusqu'en 1848 inclus, ce risque est réel.
Il n'y a pas de mariage mixte, ça ne se produit pas.
Il y en a eu progressivement un peu plus au cours du XIXe siècle, à mesure que la religion déterminait un peu moins le comportement des individus. Mais au début, effectivement, il y en a peu.
Et ces protestants, donc, ils sont en minorité, bon, même si c'est une forte minorité, qu'est-ce qu'ils réclament? Qu'est-ce qu'ils voudraient? Qu'est-ce qu'ils pensent avoir besoin pour se sentir en sécurité?
Alors, c'est effectivement cette situation de minorité qui détermine les réactions des protestants gardois. Ils ne se sentiront pas en sécurité tant qu'ils n'auront pas une part suffisante dans le pouvoir local, d'une part, et aussi qu'au plan national, le pouvoir leur garantisse leur sécurité et leur liberté. D'autant plus que des événements quand même assez récents, comme la Terreur blanche en 1815, la Terreur blanche, donc, la violente réaction catholique et royaliste...
On en parlera, oui, tout à l'heure.
Tout à l'heure, oui, qui a accompagné dans le Gard la chute de Napoléon, a ranimé les craintes qu'ils pouvaient éprouver, réveillé tout un passé de persécution plus ancienne, qui est toujours bien vivant dans les consciences. Et je pense que partout où cette situation de minorité se retrouve avec parfois un passé d'affrontement, et ça n'est pas seulement caractéristique du Gard, les réactions sont les mêmes.
Oui, on a parlé de terreur blanche à la chute de Napoléon, on va y revenir, mais... Je voudrais qu'on remonte plus avant. Alors, on ne va pas remonter à la Réforme, mais on va remonter à la période de la Révolution française.
Oui, en effet, globalement, les protestants ont accueilli avec satisfaction la Révolution qui leur donnait la pleine égalité civile et politique. Nombre d'entre eux ont accédé à des fonctions importantes. Je pense par exemple au rôle de Rimbaud Saint-Étienne, le pasteur nîmois, dans l'Assemblée constituante.
Vous pouvez donner ce qu'il a fait, par exemple, un exemple de ce qu'il a fait,
Rimbaud Saint-Étienne. Il a contribué notamment à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme. Et puis il a eu ensuite tout un rôle politique qui, d'ailleurs, s'est pour lui malheureusement mal terminé, puisqu'il a été compromis avec les Girondins à la fin de son existence. Bon, et alors donc, ces protestants donc se sont rangés dans le camp de ce qu'on appelait à l'époque les patriotes, c'est-à-dire les partisans de la Révolution, à la différence des catholiques qui, eux, se sont certes partagés quand même, mais se sont situés pour l'essentiel dans l'opposition. Et cela a durci l'opposition entre protestants et catholiques. Néanmoins, la Révolution française aussi, il ne faut pas quand même l'oublier parce qu'on l'oublie parfois, a aussi bouleversé les cultes. N'oublions pas d'abord les tentatives de déchristianisation dans la période donc 1793-94, et puis une première séparation de l'Église et de l'État en 1794. Et incontestablement, la Révolution a provoqué un certain recul de la religion dans la vie quotidienne des gens. Mais ensuite, quand la vie politique retrouve un certain calme, les différentes confessions s'efforceront de retrouver leur influence et la retrouveront.
D'accord. Et alors, si je comprends bien, vous allez me dire si c'est pas tout à fait ça, mais les protestants dans leur majorité, est-ce qu'ils préfèrent avoir la liberté civile dans une société déchristianisée ou plutôt que d'être contraints dans une société catholique?
Pas forcément. C'est pas forcément ce dilemme qu'ils vivent, je crois. Ils veulent surtout pouvoir justement pratiquer leur religion dans la paix civile, pouvoir avoir des temples, etc., exercer librement donc leur confession, et ne pas être dans la société en position minoritaire, méprisée parce que minoritaire, ou dominée parce que minoritaire.
Voilà. Oui, alors ils sont minoritaires, mais ils ne veulent pas être méprisés.
Voilà, bon. Exactement.
Ils ont bien compris, je suppose, qu'ils sont minoritaires et qu'ils...
Oh, oui. nécessairement, oui.
Voilà. Alors, ensuite, période napoléonienne, je vais y arriver, au tout début du 19e. Les protestants, comment ils se comportent face à Napoléon ? Ils adhèrent ? Il y a des résistances dans le Gard ?
Alors, avec Napoléon, donc, on assiste d'abord, il ne faut pas l'oublier, à un rétablissement des rapports entre l'État et les cultes, c'est la fin de la séparation de l'Église et de l'État, hein, grâce au concordat de 1800. L'ordre règne dans le pays, les cultes peuvent s'exercer, les édifices religieux sont construits, dès qu'ils sont construits. Les protestants ne peuvent qu'adhérer à ce changement. Hein. Mais le concordat consacre malgré tout une certaine primauté de l'Église catholique.
Qui reste religion d'État ?
Oui, en un sens. Enfin, si vous voulez, ça reste une religion d'État.
Mais, oui.
Hein, bien sûr. Hein, bon. Elle n'est pas la seule religion, mais c'est la principale religion.
Hein, oui.
Et ça, c'est très important.
Vrai,
hein. Après, il y a au début une relative idylle entre Napoléon et les catholiques. Napoléon est couronné empereur par le pape en 1804. Hein. Mais dans la seconde moitié de l'Empire, il y a d'autres rapports beaucoup plus conflictuels que Napoléon entretient avec la papauté, jusqu'à faire arrêter le pape, l'emprisonner, etc. Et ça ne peut pas être pour déplaire aux protestants.
Hein. Bien sûr.
Bien sûr. Alors, bien sûr, vous parliez d'opposition. Il y a pu avoir des gens mécontents, mais plutôt pour d'autres raisons, c'est-à-dire à cause du poids de la conscription pour le service militaire et les guerres, hein, des impôts dus aux guerres également, de l'absence de liberté politique réelle sous l'Empire.
Oui.
Mais cette opposition n'était pas vraiment d'ordre religieux. Néanmoins, je crois qu'on peut dire que sous l'Empire, les protestants ont été assez satisfaits et ont gardé, un bon souvenir de Napoléon. Après la chute de l'Empire, la situation devient beaucoup plus préoccupante, car le rétablissement de la royauté implique aussi de ce fait un renforcement de l'influence catholique dans l'État.
Alors, on arrive à la Restauration, donc après la défaite de Waterloo en 1815. Bon, en fait, il y en a eu deux de Restauration, mais on ne va pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire que les frères de Louis XVI, donc le roi guillotiné, rétablissent la monarchie de droit divin alliée au catholicisme. Et là, on se doute que les protestants ne sont pas vraiment pourchassés, mais il n'y a pas une égalité dans le traitement entre catholiques et protestants.
Oui, effectivement, la Restauration ne peut qu'inquiéter les protestants. Hein. C'est moins du fait de la politique nationale, car quand même, on ne revient pas sur les conquêtes de la Révolution en général. Hein. Bon, le Concordat, enfin, du moins pour certaines conquêtes fondamentales, hein, le Concordat est maintenu. Hein. Le culte s'exerce librement. La liberté de la presse, elle est certes très limitée, mais tout de même moins que sous l'Empire, où la presse était complètement contrôlée par l'État. Hein. Mm-hmm. Dans les zones protestantes, le gouvernement s'efforce malgré tout de faire une certaine place aux protestants dans les municipalités. Toutes les municipalités sont nommées. Hein.
Oui, oui.
Après les excès de la Terreur blanche, donc, le calme revient, mais ça a quand même mal commencé.
Oui, alors justement, la terreur blanche dans le Gard, on connaît la terreur rouge, mais on ne connaît pas tellement la terreur blanche, sauf si on n'est pas du Gard. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement la terreur blanche ? Il y a eu des victimes, il y a eu des morts
Effectivement, le régime a, dans le Gard, très mal commencé. Hein. Après Waterloo, en juillet 1815, à Nîmes, des bandes armées qui sont formées de paysans et ouvriers nîmois, catholiques, hein, conduites par un leader populaire Trestaillon, attaquent les soldats bonapartistes qui occupaient encore la ville, mais qui l'évacuent. Hein. Ça fait quand même 70 morts environ.
Ah oui.
Puis ils rançonnent les protestants aisés, ils pillent les maisons, ils massacrent parfois les habitants. Et là encore, il y a eu combien de morts ? Plusieurs dizaines au moins. Les temples nîmois sont fermés. Et il ne faut pas non plus oublier que ces violences s'étendent dans les plaines voisines de Nîmes, dans les villages catholiques voisins de, protestants ou catholiques voisins de Nîmes, et aussi à Uzès, par exemple. Les protestants nîmois fuient la ville vers la gare de Nîmes ou vers l'Avonage qui sont plus sûrs. Là, c'est quand même, il n'y a pas cette offensive. Hein, ou même dans d'autres villes françaises, Montpellier, par exemple. Il y a un aspect social dans le mouvement, incontestablement. Hein. C'est un mouvement, une sorte de révolte des pauvres contre
les catholiques sont plus pauvres que les protestants, globalement.
Oui, protestants. Alors, il y a aussi des arrestations arbitraires qui sont opérées, qui sont parfois poursuivies par des condamnations. Donc, pendant 3 mois à peu près, hein, eh bien, c'est une période extrêmement troublée. Le calme ne revient que vers la fin septembre. Alors, à ça, il faudra ajouter qu'évidemment, mais ça viendra progressivement, sur le plan national, l'Église catholique acquiert à nouveau dans l'État, dans la vie publique, dans l'éducation, par les missions de propagande, une place prépondérante, et aussi même par quelques gestes symboliques.
Comme quoi, par exemple, eh bien, les gestes symboliques ?
Oui, par exemple, le successeur de Louis XVIII, son frère Charles X, se fera sacrer à Reims en grande pompe, hein, et cela ne peut qu'irriter les protestants.
Oui, alors rappelons que par le sacre, le roi est oint de Dieu, c'est-à-dire il est oint, donc il a l'huile de Dieu, c'est donc l'alliance totale de l'État du catholicisme.
Évidemment. Hein. Et alors, il y a cet aspect, évidemment, religieux, hein, mais plus largement aussi, il ne faut pas le méconnaître, il y a un autre aspect très important, c'est que le nouveau système politique qui apparaît avec la Restauration exclut la grande masse des Français de la vie politique. Hein. Pour être candidat ou voter aux élections de la Chambre des députés, il faut payer un impôt suffisamment élevé. Et cet impôt élimine 95% de la population.
Hein. Mmh.
Bon. Alors ceci ne défavorise pas forcément tous les protestants, hein, car à Nîmes, il y a des entrepreneurs, des banquiers, des propriétaires terriens, des fonctionnaires de rang élevé qui peuvent voter. Mais le peuple, lui, est exclu. Et c'est un recul considérable, hein, même par rapport à l'Empire.
Parce que sous l'Empire, les gens pouvaient voter.
Les gens continuaient à voter. Il y avait des référendums. Bon, ce n'était pas forcément très démocratique. Hein, oui. Mais enfin, les citoyens de base continuent à voter. Hein. Mmh. Et alors, de même, si la presse est plus libre quand même que sous l'Empire, où elle n'est pas libre du tout,
oui.
Hein, on peut tout de même très facilement l'atteindre par toutes sortes de mesures, une caution élevée pour fonder un journal, des amendes le cas échéant, un droit de timbre sur les exemplaires de journaux, etc., qui font que la presse est chère et donc...
Et donc pas libre.
Peu lue, enfin moins lue, quoi.
Et alors vous parlez donc que les protestants riches peuvent voter, alors... est-ce que c'est le début d'une séparation entre la grande bourgeoisie protestante conservatrice, voire de droite, et le peuple protestant de l'autre côté ? Est-ce que ça se traduit politiquement hors élection, puisqu'ils ne pouvaient pas voter les pauvres ? Donc oui. Comment ça se traduit, cette séparation qui commence ?
C'est difficile, évidemment, à la déterminer, à l'étudier dans le détail. Mais enfin, ce qu'on peut dire, c'est que vraisemblablement, ils se sont divisés entre une fraction plutôt modérée, conservatrice, qui considérait que, malgré tout, la situation, tout en n'étant pas excellente, était acceptable. C'est-à-dire que l'ordre...
Il y avait de l'ordre.
...devait se payer par un peu de liberté. C'est quand même une grande satisfaction, hein, de pouvoir exercer son culte librement, etc., sans entrave. Bon. Le reste de la population... pouvait être en revanche en désaccord pour des raisons diverses. Hein. Irritation quand même devant la puissance des catholiques, les manifestations, etc., qui tentent à se renforcer plutôt au cours du temps. Absence de liberté d'une façon générale, parce que malgré tout, il n'y en a pas beaucoup. Et ces protestants ont pu s'agréger à d'autres opposants,
Oui, il n'était pas seul.
Il n'était pas les seuls. Libéraux, juifs, juifs souvent, hein, bonapartistes. Bonapartistes qui demeuraient quand même. Hein.
Oui.
Républicains, encore pas très très nombreux, de tendance jacobine, pour former ce qu'on pourrait considérer comme une opposition de gauche au régime. Malgré tout, encore faible. Et cette coalition, eh bien, on la retrouvera plus tard. Alors, dans la population, il y a aussi, on le note, des manifestations sporadiques d'opposition qui viennent de ce camp patriote, hein, protestant, principalement protestant, là où il est important.
Oui, alors patriote, on rappelle, c'est le mot qui est issu de la Révolution française et qui signifie que l'on adhère dans les valeurs de la Révolution.
Exactement. On adhère aux valeurs proclamées par celle-ci sans forcément se rattacher à une tendance politique. On n'est pas forcément jacobin, etc. Hein,
Girondin, et ça n'a pas d'aspect patriotique, enfin patriotique comme de nos jours, nationaliste, disons.
Il y a évidemment un aspect qui a pu se développer avec les guerres révolutionnaires.
Oui.
Hein, mais au départ, non.
Ce n'est pas au départ nationaliste.
Hein, ce n'est pas au départ nationaliste.
Et alors finalement, cette histoire de la restauration qui arrive, je rappelle donc Révolution, Napoléon, et puis chute de Napoléon, restauration des rois Bourbons. On ne pensait pas quand même, on avait guillotiné le dernier, on pensait que ça serait le dernier, et il n'y avait pas d'héritier, et les frères de Louis XVI reviennent. Donc est-ce que ça montre que jamais rien n'est acquis en matière de liberté ?
Oui, évidemment, hein, évidemment. Ce rétablissement de la monarchie peut nous apparaître aujourd'hui comme un fait curieux, c'est vrai, mais il faut bien dire tout de même hein, qu'il n'est absolument pas le résultat d'une volonté populaire. Hein. Napoléon étant vaincu, et on le presse d'abdiquer, le pouvoir est vacant. Mais il y a tout de même un candidat potentiel, hein, c'est le futur Louis XVIII, dont la seule légitimité est d'être le frère de Louis XVI. Et d'autre part, il faut nécessairement que le gouvernement à établir soit accepté par les alliés.
Ah oui.
Ce sont eux qui fixent les conditions. Hein. Il ne peut pas y avoir d'autres souverains qu'un souverain accepté par les alliés.
Oui, parce que ce sont les alliés qui ont battu Napoléon.
Bien sûr, évidemment. Hein. Alors, la transition est décidée d'en haut par les sénateurs hein, dans des conditions qui ne sont pas tout à fait acceptables, hein, avec le concours de quelques leaders manœuvriers dont
Talleyrand oui,
qu'on connaît, connaît, et l'accord des alliés. Je dis qu'on pourrait comparer, peut-être un peu d'excès, mais avec l'arrivée au pouvoir de Pétain à la suite de la défaite de la France en 1940. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces conditions de départ ont pesé par la suite parce que on a pu accuser le nouveau régime d'être arrivé dans les fourgons de l'étranger. Hein, ça a été une formule qui a été adoptée. Le régime a été imposé dans les fourgons.
Oui,
l'étranger.
C'est une formule qui semble assez vraie.
Oui,
et alors, effectivement, on a vu des pasteurs. Enfin, moi, j'avais vu celui de Lunel, bon, qui n'est pas dans le Gard, mais enfin, qui n'est pas très loin, qui s'était rallié à la monarchie des Bourbons alors qu'il était bonapartiste et qu'il avait juré ne jamais collaborer ou ne jamais être sous la tutelle des Bourbons. Et donc, finalement, il a plié. Et on a retrouvé cette idée des Bourbons arrivés dans les fourgons de l'étranger, qui expliquait justement ces ralliements.
C'est certain que des gens qui avaient peut-être de très fortes préventions au départ, qui craignaient que ça soit pire hein, que ce qui s'est passé, ont pu, à l'usage, hein, considérer que la situation était acceptable. Moi, je pense qu'il y a eu ce genre d'évolution n'est pas invraisemblable, si vous voulez.
Et alors, il va y avoir une nouvelle restauration, donc toujours la monarchie, mais je fais d'abord un petit résumé pour qu'on suive. Donc, je répète, hein, 1789, révolution, après Empire de Napoléon, début du 19e, 1815, chute de l'Empire et restauration des Bourbons, donc les frères de Louis XVI. Et puis, on arrive à 1830. Et comme on est en France, et comme on aime bien les révolutions, il se produit celle de 1830. Et là, on chasse les Bourbons, mais on remet un autre roi, lui aussi de la dynastie d'Hugues-Capet, d'une branche cadette.
Oui, effectivement. La révolution de 1830 éclate à la suite de la nomination par le roi d'un gouvernement très à droite, en conflit avec d'ailleurs la Chambre des députés. Qui promulgue des ordonnances qui réduisent encore la liberté de la presse, modifie le système électoral, alors déjà très restreint, hein, au désavantage de la bourgeoisie. Alors, cette révolution parisienne, elle est faite, effectivement, concrètement, par les ouvriers qui auraient voulu, les ouvriers parisiens qui auraient voulu la République, mais elle est captée par les partisans du duc d'Orléans, Louis-Philippe, avec l'aide de Lafayette, le héros des deux mondes, hein,
oui,
qui a encore une très forte popularité, ou de jeunes journalistes comme Thiers, qu'on retrouvera plus tard. Alors Louis-Philippe, c'est le fils de Philippe Égalité, comme on l'a appelé, duc d'Orléans, qui a siégé à la Convention, qui a voté la mort de Louis XVI, hein, c'est assez baroque quand même. Mais il se situe incontestablement de ce fait dans la mouvance patriote. Hein, voilà.
Oui, alors, pour nos auditeurs qui seraient perdus, je précise donc que la branche aînée des Bourbons est celle de Louis XVI, guillotiné, de ses frères Louis XVIII et Charles X, celui qui s'est fait sacrer à Reims. À Reims ou à Saint-Denis ?
À Reims,
oui. La famille d'Orléans, c'est une branche cadette qui remonte au neveu de Louis XIV, si je me souviens bien, le fameux régent qui était un libertin notoire. Mais bon, ça n'a rien à voir. Donc, une monarchie monarchie renégate, puisque, comme vous l'avez dit, l'un des membres a voté la mort de son cousin. Ah, ça se traduit sur le plan politique, ça, peut-être ?
Oui. Oui, oui, oui. Alors, évidemment, ça se traduit sur le plan politique, car il y a une sorte de révision de la charte, faite très rapidement, de façon à rendre la charte un peu plus libérale. Quelques progrès sont obtenus. Un élargissement limité du corps électoral, on l'a multiplié par deux, mais comme il était déjà très restreint, ça n'a pas
ça
ajouté
pas
énormément
plus.
De choses. Un régime un peu plus parlementaire, une moindre influence de l'Église catholique. Et puis alors, la révolution de 1830 a été considérée quand même aussi comme le triomphe de la bourgeoisie hein, par rapport à l'aristocratie. Et ça a favorisé le développement du capitalisme. C'est le règne des banquiers, comme on a appelé, c'est le règne des banquiers. Hein. C'est Stendhal, je crois, qui dit ça. Alors, ces progrès, donc, comme on le voit, profitent surtout à la bourgeoisie, parce que ce développement industriel, on le sait, a engendré toutes sortes d'excès. Hein. Mais la bourgeoisie protestante lui a été très favorable, globalement.
Ben, il y a eu des ministres protestants.
Oui, il y a eu des ministres protestants. Notamment le célèbre Guizot.
Oui, dont on va parler, tout à l'heure.
Hein. Donc, le régime promeut quelques réformes qui sont quand même chères aux protestants, comme l'extension de l'instruction primaire. Malgré tout, donc, encore une fois, la masse de la population est exclue de la vie politique. On a simplement voté une loi municipale qui a élargi un peu le corps électoral, mais uniquement municipal. Alors, dans une ville comme Nîmes, par exemple, la bourgeoisie protestante retrouve la voie du pouvoir. Hein. C'est ça, c'est très très important pour les protestants. Le maire de Nîmes... Et les maires sont nommés hein, pendant toute la période. Et pendant toute une partie de la monarchie de Juillet, c'est un grand notable protestant, pair de France, Girard, hein, qui va le rester jusqu'à la Révolution. Alors, en 1846, même, les opposants, à la suite d'une manœuvre assez compliquée, réussissent à faire élire un député protestant, d'ailleurs très, très modéré, Émile Telon, qu'on retrouverait d'ailleurs en 1848. Naturellement, ces progrès, d'ailleurs, irritent les catholiques pocaux. Ils ont l'impression d'être à leur tour dominés.
Oui, ben, on le comprend.
À leur tour dominés. Et il y en a même un qui compare la situation des catholiques nîmois à l'Irlande. Vous voyez, à l'Irlande.
Ah oui.
Les pauvres. Bon. Alors, pourquoi ce régime perd-il le soutien de l'opinion ? Pour toutes sortes de raisons, sans doute. Mais d'abord, parce qu'il refuse obstinément d'élargir le corps électorale beaucoup trop limitée.
Alors, on connaît la fameuse réponse du Premier ministre Guizot, donc qui était protestant, enrichissez-vous pour devenir électeur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voter parce que vous n'êtes pas assez riche, eh bien, vous n'avez qu'à vous enrichir. Bon, si je voulais être un peu polémique, je dirais que ça ressemble assez au traverser la rue pour trouver du travail d'un récent président de la République. Mais bon, ce n'est pas notre propos. Voilà. Donc, enrichissez-vous pour devenir électeur d'un Premier ministre protestant.
Oui. Alors, il avait quand même précisé par le travail ou par l'épargne. Il n'est
d'accord.
Pas dit par la spéculation.
ou par la corruption.
Voilà. Bon. Mais enfin, bien, cette réponse est quand même un peu simpliste, on peut dire, parce que c'est pas si simple que ça, et qui, même on peut travailler toute sa vie et ne pas s'enrichir. Hein. Bon. Et il y a des tas de gens qui sont dans cette situation.
Hélas.
Et ça néglige l'aspiration tout à fait légitime à la citoyenneté, parce que je pense que cette aspiration à la citoyenneté, elle était quand même aussi vécue dans les familles, parce que les parents, les grands-parents avaient été électeurs sous la Révolution,
oui.
Et donc ils avaient aussi, et même sous l'Empire d'ailleurs, comme je l'ai dit, et donc ça devait quand même avoir marqué les esprits, et en être privé ne pouvait pas être considéré comme quelque chose de négligeable. Bon, alors effectivement, la gauche républicaine, ou même avancée, hein, soutient l'élargissement du droit de suffrage. Mmh. Et cet élargissement devient vraiment un mot d'ordre de masse juste avant la Révolution de 1848. Il y a une campagne de banquets, etc. Et puis, d'une façon générale, il faut dire que le régime de la monarchie de Juillet a été quand même assez restrictif en matière de liberté. Il l'a été de plus en plus,
d'ailleurs. Oui, il s'est droitisé de plus en plus.
Voilà, il s'est droitisé. La liberté d'association a été réduite en 1834. Il y a eu de nombreux procès contre les journaux. Et puis alors aussi, on a beaucoup accusé le régime de corruption, et c'était tout à fait vrai, hein, corruption des députés par le pouvoir, et puis corruption d'une façon générale dans la société. Il y a des scandales qui éclaboussent des hommes politiques. On a un cas très intéressant, parce que dans le Gard, il y a un ministre des travaux publics, Jean-Baptiste Teste, qui appartient d'ailleurs à une famille bayonnaise qui a donné toutes sortes de gens très intéressants pendant l'époque révolutionnaire, hein, et qui était ministre et qui a été corrompu par un de ses collègues de la justice pour favoriser l'exploitation d'une carrière en Saône-et-Loire, une corruption qui lui a qui était très coûteuse. Et il y a eu un grand procès, précisément en 1847, un grand procès. Très médiatisé dans les conditions de l'époque, relativement très médiatisé dans les conditions de l'époque qui ne sont pas évidemment celles d'aujourd'hui, quoi.
Bien sûr.
Bon, voilà. Et donc, ce sont des faits quand même qui comptent. Alors, le régime voudrait se présenter comme libéral. Il n'est pas totalement illibéral, hein, mais ce libéralisme, d'abord, est très limité, enfin relativement limité, relatif dans le domaine politique. Il est très étriqué. Et puis, l'autre aspect du libéralisme, c'est-à-dire la liberté économique, l'affairisme, lui, est bien présent.
Oui.
Donc, il y a certainement une forte différence d'appréciation entre le jugement sur le régime, entre le peuple protestant et les élites bourgeoises. Mais malgré tout, le Gard ne s'est pas présenté, si vous voulez, mais pas signalé parmi les foyers importants de contestation du régime. Et c'était encore Paris qui a fait pencher la balance dans le camp de la Révolution en 1848.
Eh bien, nous verrons cela la semaine prochaine. Alors, merci Raymond Huard et merci à nos auditeurs à qui je donne rendez-vous donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires à un protestant peut en cacher un autre @radiofmplus.org. Un protestant peut en cacher un autre, je répète, tout attaché, caché ER, et Radio FM Plus, Radio FM Plus PLUS. À la semaine prochaine, merci à tous.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.